comme elle va. La vie comme elle va, Francesca Piolo. Bonjour, cette émission est réalisée par Véronique Villa, à la technique Bruno Gagnère. Et aujourd'hui, nous parlons de l'originaire. Qui saura nommer l'enfant de son vrai nom, disait Rilke. Chacun d'entre nous va naître sur deux plans antagonistes, un plan biologique et un plan psychique. L'accouchement de l'organisme biologique suit un cours naturel et c'est tout au plus un déracinement. L'organisme psychique implique un déchirement. Voilà notre invité. Deux plans et trois naissances peut-être. Le chemin n'est pas simple. C'est à travers une psychanalyse de la naissance que nous suivrons les propositions de Jean-Marie Delassus, notre guide aujourd'hui. Il est médecin, il est philosophe, il a créé le premier service de maternologie en 1987 et il est l'auteur du Génie du fœtus, de psychanalyse de la naissance et des logiciels de l'âme chez Encre Marine. Les textes sont lus par Emmanuel Lemire, Catherine Artigala et nous sommes ensemble jusqu'à 16h30.
Regardez les espaliers en fleurs, le long du petit mur de briques roses, les arbres fleuris, la pelouse d'un vert étincelant, jonchée de pâquerettes, de pétales blancs et roses. Le ciel, bien sûr, était bleu, et l'air semblait vibrer légèrement. Et à ce moment-là, c'est venu. Quelque chose d'unique, qui ne reviendra plus jamais de cette façon. Une sensation d'une telle violence, qu'encore maintenant, après tant de temps écoulé, quand... amoindrie, en partie effacée, elle me revient. J'éprouve... Mais quoi? Quel mot peut s'en saisir? Pas le mot à tout dire bonheur qui se présente le premier, non, pas lui. Félicité, exaltation sont trop laids qu'ils n'y touchent pas. Et extase. Comme devant ce mot, ce qui est là se rétracte. Joie? Oui, peut-être. Ce petit mot modeste, tout simple, peut effleurer sans grand danger. Mais il n'est pas capable de recueillir ce qui m'emplit, me déborde, s'épand, va se perdre, se fondre dans les briques roses, les espaliers en fleurs, la pelouse, les pétales roses et blancs, l'air qui vibre, parcouru de tremblements à peine perceptibles, d'ondes, des ondes de vie tout court, quel autre mot? De vie à l'état pur, aucune menace sur elle, aucun mélange. Elle atteint tout à coup l'intensité la plus grande qu'elle puisse jamais atteindre. Jamais plus cette sorte d'intensité-là, pour rien. Parce que c'est là, parce que je suis dans cela, dans le petit mur rose, les fleurs des espaliers, des arbres, la pelouse, l'air qui vibre. Je suis en eux sans rien de plus. Rien qui ne soit à eux, rien à moi. Nathalie Sarout, enfance.
Au centre de ma vie, il y a cette faille. Cette transparence, ce suspens indicible, sur quoi se fixe fasciné mon regard et ma pensée. Un jour, je fus admis, vivant, à l'éternel. Ici même, dans cet espace innocent d'eau vive, de feuillage et d'oiseaux si vite rassurés, l'éternel n'est pas une terre promise à la pointe d'un chemin de sueur et de larmes, et nul n'en pourrait forcer l'accès par quelque intrusion frauduleuse, puisque nous sommes en lui, La connaissance qu'une grâce nous en accorde est brutale comme un rapt. C'est lui qui entre en nous, dans un tremblement foncier irrépressible de tout l'être. Notre cécité nous est arrachée d'un coup, comme la taie d'un œil tari. Oui, j'ai été cet homme traversé. Les doigts noués au mince tronc d'un frêne adolescent, j'en sens encore la lisse fraîcheur à mes paumes. J'ai soutenu l'irruption de l'éternel. J'ai subi l'assaut de l'ineffable. J'ai vu la vraie lumière. Gustave Roux, Requiem.
Essayez, Jean-Marie de la Sud, de me raconter un peu votre parcours, parce que vous êtes philosophe, vous êtes médecin, vous avez fait de la psychologie. Il y a beaucoup de choses à votre palmarès.
Je préfère le mot parcours, si vous permettez, au mot palmarès. Oui, parce qu'il ne s'agit pas d'un palmarès. C'est vrai que je voulais être philosophe, et puis les choses ne sont pas présentées de cette manière, donc j'ai fait médecine pour pouvoir faire psychiatrie, ce qui était pour moi une philosophie appliquée. Bien. Et puis, pour faire court, je me suis ensuite orienté, tout en faisant une psychanalyse personnelle, vers la psychiatrie d'enfants, jusqu'au moment où ça me devenait vraiment insupportable, mais quand même après des années. Ce qui était insupportable, c'était d'arriver toujours en retard. C'est-à-dire que quand une maman ou maman et un papa viennent avec leur petit enfant et que cet enfant a déjà 4 ou 5 ans, si vous voulez, 4 ou 5 ans, c'était il y a 20 ans, puisque on a commencé la maternologie il y a 20 ans, c'était monnaie courante, et maintenant encore on n'y voit pas si tôt que ça les enfants, n'est-ce pas? Or, qu'est-ce que vous pouvez faire quand un arbre a déjà bien poussé, qu'il a pris une certaine inclinaison sous le vent, à moins de le déraciner, ce qui pour un enfant serait assez cruel, si on parle en termes d'humains et non plus en termes de végétaux, qu'est-ce que l'on peut faire? En tout cas, il y a une chose qu'on fait, c'est qu'on se désespère. Parce qu'on est là comme pour recevoir une addition de souffrance, une déformation souvent, même dans le corps, si vous voulez. Je parle simplement d'enfants qui arrivent avec un état autistique déjà bien fixé. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors on peut faire, on peut mobiliser beaucoup de choses, mobiliser des tas d'institutions, etc. Mais et le résultat? Je crois qu'en médecine, on est tenu au résultat. Vous savez qu'en Chine, les médecins sont payés aux malades qui guérissent et non pas aux malades qui soignent. On pourrait en prendre de la graine, c'est pas? En tout cas, en pédopsychiatrie, être là, celui à qui on apporte sur un plateau comme ça un enfant qui, depuis des années déjà, est malade, il arrive un moment où ça devient insupportable. Alors, j'entendais les mamans dire des choses, se dire « mais ça fait longtemps que ça traîne ». Puis j'entendais, et après l'accouchement, tout de suite, moi je me sentais pas bien. Bon. Et alors un jour, l'idée qui germait m'est venue qu'il fallait résolument s'intéresser à l'origine, à la naissance, au premier développement. Et le premier développement de l'enfant, ça se fait dans les bras de la maman, au sein de la maman, avec le père. Donc il fallait aller là. Aller là, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire deux choses. Premièrement, délimiter un champ clinique, qu'on a appelé la maternologie, c'est-à-dire science de la maternité psychique. Et ensuite, ne pas importer dans ce domaine délimité ainsi, ne pas importer des concepts d'une autre discipline sans avoir vérifié s'ils étaient adéquats. Et en particulier, importer les concepts de la psychiatrie à une maman en souffrance, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Et en particulier, réduire la difficulté maternelle à la simple dépression postnatale, je ne pense pas que ce soit cliniquement suffisant. Donc, le parcours, pour répondre brièvement maintenant à votre question, le parcours a été celui-là. Bon, j'avais pu faire quand même l'étude de philosophie et de psychologie pendant ma médecine. Et bon, je crois que ça m'a pas mal servi. pour ouvrir cette nouvelle discipline médicale qu'est la maternologie, c'est-à-dire une discipline qui a pour objet la difficulté maternelle, parentale et surtout la difficulté natale, la difficulté de naître sur le plan psychologique.
Pourquoi savoir l'origine, puisqu'elle est à oublier, plus encore à forclore? N'est-elle pas, si on veut l'aborder, l'occasion d'un trauma supplémentaire qui donnerait un sens radical et mortel au traumatisme de la naissance? Peut-être. Et plus d'un, en effet, en est mort. Cherchant presque la rencontre avec cette mort, allant en Abyssinie ou s'exposant au martyr. Il y a en l'homme suffisamment d'origine résiduelle pour que certains en meurent, par désir d'œuvre ou désir de Dieu. Ce qui revient au même, car c'est une parole qui parle en nous, et qui, lorsqu'elle résiste au refoulement, reste une flamme vive que l'incompréhension de l'environnement aura rendue dévorante jusqu'à pouvoir provoquer la mort. On meurt alors d'être resté dans cette intuition et ce mouvement, mais également de manière insidieuse, on meurt, on vit mal et déformé, du fait que la naissance et l'homme natal ne sont pas compris. Malheureusement, notre culture ne semble rien savoir de la réalité natale de l'enfance. Rilke demandait « Qui saura nommer l'enfant de son vrai nom ?» Or, il nous semble que c'est chose faite, car nous ne doutons pas que l'enfant est à élever, à faire grandir. C'est se méprendre sur le sens de ce mot. Il n'est acceptable que s'il ne signifie pas une croissance, mais au-delà, la possibilité d'acclimater au monde le réel prénatal. Acquérant aussi, en retour, la capacité progressive d'alimenter ce réel par tout ce que l'on pourra trouver et percevoir au monde. Cette allée et venue et la souplesse des rapports entre les deux mondes ne sont pas autre chose que la forme spécifique que prend l'accomplissement de la naissance pendant la petite enfance, c'est-à-dire l'amour d'aimer, le désir d'aimer. En fait, la naissance psychique réussie est la transposition de l'amour naturel de notre réel constitutif en capacité d'amour du monde et de soi. Voilà une autre version du narcissisme. Mais c'est la permanence de ce réel comme inconscient qui soutient la possibilité de cet amour. Jean-Marie Delassus, la psychanalyse de la naissance.
Concept cependant que vous avez inventé, mis en place, Jean-Marie Delassus, c'est celui d'originaire.
Oui, c'est un concept parmi d'autres. Tout ça s'inscrit dans une espèce de trame, qui est justement la trame de notre origine. Ce que nous appelons, je dis nous parce que là, je parle avec vous aujourd'hui, mais en même temps, je représente toute une équipe qui a travaillé ensemble depuis 20 ans. Donc, je préfère dire nous, il n'y a pas que moi. C'est une pensée élaborée en groupe. Et ce que nous appelons l'originaire, c'est le fait que, après la naissance, étant donné qu'il y a eu une vie originelle du fœtus, ce qu'on ne sait pas encore assez, et sur lequel peut-être on pourra revenir, parce que c'est absolument fondamental, il est évident, étant donné qu'il y a eu cette vie originelle, qu'on ne peut pas, que le bébé ne peut pas passer tout d'un coup de ce monde qu'il a vécu, connu, au monde dans lequel il entre, sans une transition. Il faut un sas. Et l'originaire, si j'avais à le définir simplement, je dirais c'est un sas. C'est un sas entre la vie prénatale et ce qui sera ensuite notre vie conceptuelle, telle que celle qui nous fait parler ensemble actuellement, si vous voulez. Ce sas dure un certain temps. C'est le moment, pendant donc 2 à 3 ans, où tout ce qui a été acquis pendant la vie prénatale, et qui devient absolument notre structure de vie, que nous entendons par le mot de totalité, que cela puisse s'adapter au monde, prendre figure de monde. Et à ce moment-là, pendant 2 ou 3 ans, ceux qui sont couverts par l'amnésie infantile, ce que l'on vit et voit, ce que le petit bébé, le petit garçon, la petite fille vivent et voient, ils le voient de manière originaire. C'est-à-dire que la couleur de ce mur qui est bleu, ce rideau qui est blanc, cette odeur, ce visage, tout ça, va figurer l'originel perdu, si vous voulez, mais permettre à cet originel de s'inscrire dans les formes du monde. C'est-à-dire qu'on voit le monde les yeux véritablement ouverts. On le voit, ce monde, dans une espèce d'apparaître pur qui fait qu'il y a un vécu très ontologique du monde. Tout ça se cassera la figure au moment où on va couper du fait qu'il faut à un moment donné rompre avec la présence, notamment maternelle, et à ce moment-là, entrer dans le développement du moi. Mais pendant 2 ou 3 ans, qui correspondent à la phase prégénitale chez Freud. Vous savez, Freud a été à reculons en travaillant le rêve et tout ça. Bon, il va de plus en plus loin en arrière. Et puis, il rencontre un obstacle. Et il dit, vers la fin de sa vie, après la mort de sa mère d'ailleurs, à 76 ans. Mais tout cela, cette période d'avant l'Œdipe, la période prégénitale, me paraît tellement blanchie, tellement lointaine. Et il avoue que c'est difficile. Bon, ça c'est la méthode qui va vers l'arrière. Nous sommes partis, si vous voulez, directement de l'origine. C'est deux méthodes, et deux méthodes qui peuvent très bien faire leur jonction, voyez-vous ?
La maternologie, Jean-Marie de Lassus, c'est une sorte d'acceptation et de préparation à l'originaire.
C'est la possibilité donnée à la maman que l'on prend en charge et qui autrement souffre d'un manque d'élan maternel, c'est la possibilité qu'elle donne à son enfant les moyens de pouvoir vivre ici ce qu'il a vécu là-bas, ici c'est-à-dire dans le post-natal, ce qu'il a vécu là-bas dans le prénatal, de manière à ce que, muni de ce bagage, conforté par cette expérience qu'il fait dans les bras de la mère, et dans le monde qui l'environne, il puisse, le jour où il, quelque part, il se sépare de sa mère, il puisse avoir un fondement, Cyrulnik, on dirait une résilience, je serais bien d'accord, un fondement tel que l'épreuve qui l'attend de se réduire à son propre moi soit en même temps animée par l'élan qui vient de l'originaire, lequel a redupliqué, si vous voulez, l'originel.
Certes, un nouveau-né, c'est le mystère. Il a bien fallu s'en accommoder. De toute façon, pour comprendre, il suffit de le regarder. Il appelle avec ses yeux. Et sa fragilité est aussi une fameuse puissance d'appel. Le nouveau-né interpelle et il faut lui répondre. Pour nous, la constitution est achevée et le bébé est venu au monde comme tout le monde, animaux y compris. Il est sorti de ce corps où il s'est formé et il a changé de lieu pour être ici, au milieu de nous. C'est ce que l'on appelle la naissance. Avec toutes ces pensées normales, comment savoir ce qu'est un bébé, puisqu'en réalité, on le sait d'avance. Il n'empêche que l'on ignore tout de cet extraordinaire périple qui a précédé la venue au monde. On ignore aussi qu'un autre périple commence. Un bébé, c'est une double histoire. Certes, il est difficile d'admettre qu'il ait pu y avoir une première constitution, une vie prénatale où se forme une autre origine que celle qui fait le corps, et d'où résulte une naissance antérieure. Ceci est à peine croyable, et passerait aisément pour une affabulation. De fait, on se contente plus volontiers de la réalité objectivable des gamètes qui fusionnent, formant un œuf qui grossit et se différencie en divers tissus cellulaires, chacun ayant sa fonction et sa destinée. N'est-ce pas suffisant d'envisager la constitution d'un corps bien au chaud et bien abrité que l'on sent peu à peu en soi et à travers la paroi utérine? Il n'empêche que la vie prénatale humaine est tout autre chose. Le bébé humain mène une double vie dans le ventre de la mère, en s'ouvrant à une dimension qui, tout en étant organique, transcende ce niveau. Dans son corps naît un esprit. Et cet esprit est déjà dans son monde, de même que ce monde-là représente sa seule nécessité. La préoccupation maternelle le pressent avec émotion et peut y répondre de manière adaptée. Elle prend alors le relais des apports intra-utérins et fait face, sans le savoir, à la déconstruction natale. Jean-Marie Delassus, La psychanalyse de la naissance.
Ce qui vous préoccupe beaucoup dans cette mise en place de l'originaire, Jean-Marie Delassus, c'est quand même de bien différencier le petit d'homme du petit d'animal.
Oui.
Hein?
Oui, absolument.
Ça semble essentiel dans votre pensée tout du long.
Ah, c'est vraiment, vraiment essentiel. Parce que on ne peut pas assimiler le petit d'homme au petit d'animal. Et alors, je vous dirai déjà une première chose, la courbe darwinienne de la phylogénèse, vous savez, ces espèces qui s'emboîtent l'une dans l'autre, et puis là-dessus arrive le tri de la sélection, etc. Et puis il y a des espèces qui se développent, d'autres pas, puis ça continue à avancer comme si on avait une espèce de arborescence. Bon.
Ouais.
Et puis on met l'homme dans cette arborescence. Alors, première remarque. Récemment, un paléontologue, je crois, américain, dont le nom m'échappe pour le moment.
Du côté des créationnistes?
Non, pas du tout. Non. Alors ça, c'est un autre débat.
Ouais,
je vous vois venir. Je ne tombe pas dans le piège tout de suite, du moins. Bon. Faisait remarquer, à propos d'une découverte qui a été annoncée l'année dernière, qu'il y avait 0,6% seulement de nos chromosomes qui étaient différents des mammifères les plus proches. Et je regrette de plus avoir en tête le nom de ce paléontologue, mais il disait, il n'y a pas de raison de ne pas classer Homo sapiens sapiens dans la classe des mammifères supérieurs. Voilà, on était rangés dedans, parce que il n'y avait pas de différence, si vous voulez, sur le plan génétique. Ben voyez-vous, c'est bien dommage de penser des choses comme ça, parce que la vie prénatale du fœtus humain est à la fois extrêmement semblable à celle des grands mammifères et en même temps totalement différente. Et là, il y a une rupture dans la chaîne phylogénétique, voyez-vous, il y a un saut de l'évolution dont on ne parle peut-être pas assez.
Elle est radicalement différente scientifiquement ou scientifiquement.
Oui, scientifiquement. Et on nous a fait croire que nous naissions moins matures. Alors la première réflexion que je peux faire, hein, c'est que nous sommes parmi les espèces mammifères les plus matures à la naissance. Seulement, nous n'utilisons pas nos capacités, sauf au niveau relationnel. Alors on n'insiste pas, si on dit il est prématuré le petit humain, n'est-ce pas, hein, prématuration humaine. Bon, et Merleau-Ponty avait même dit la prématuration, la preuve, c'est qu'il a l'air prématuré. Enfin, il l'a dit quasiment comme ça. C'est une tautologie, si vous voulez. Hein? Si on fait les études sur le plan neurophysiologique, on se rend compte que nous sommes extrêmement matures à la naissance, sauf au niveau du cervelet.
C'est
la seule exception.
Ouais.
Là, bon. Alors ça pose question. Ça, j'ai pas bien de réponse, mais disons qu'il y a une question latente là. Bien. Donc, nous...
Sur le rôle du cervelet.
Oui, et pourquoi le cervelet serait moins mature? J'ai peut-être des hypothèses, mais on s'égarerait si on entrait là.
D'accord.
Restons dans le courant de la pensée claire, si possible. Donc, nous sommes extrêmement matures. Le problème, c'est que nous n'utilisons pas cette maturité sur le plan moteur. Par contre, on n'insiste pas assez sur le fait qu'on la développe extrêmement sur le plan sensoriel et relationnel. C'est-à-dire qu'un bébé peut vous capter à sa naissance avec ses yeux, alors qu'il peut pas prendre une cuillère, et qu'il lui faudra, dans les bons cas, 20 minutes pour ramper, s'il est mis sur le ventre de la mère, pour ramper au hasard jusqu'au sein. Donc c'est pas tout à fait ça performant. Mais ce n'est pas dû à une infirmité motrice. La preuve, c'est qu'à 7 semaines déjà in utero, le bébé se débat, le fœtus se débat comme un beau diable. Déjà dans le... Alors, comment voulez-vous expliquer que le fœtus se débatte comme un beau diable quand il a largement la place comme ça, donc très tôt, et qu'à la naissance, il ne bouge plus? Voyez-vous, il y a là une vraie question. Et on ne peut pas l'obturer, l'occulter, cette question, en se disant, on est prématuré. Ça n'a pas de fondement.
C'est le choc. On pourrait dire que c'est le traumatisme de la naissance.
Alors, il y aurait donc un traumatisme de la naissance, différent peut-être de ce qu'avait envisagé Otto Rank.
Mm-hmm.
Il faudrait donc définir, si c'est ça votre question, le traumatisme de la naissance chez l'homme. D'où viendrait-il? C'est votre question?
Mm-hmm.
Vous voulez, j'essaye d'y répondre?
Allez-y, essayez,
bon,
oui.
Je vais essayer simplement. Voyez-vous, au fond, ce traumatisme de la naissance chez l'homme, alors, Le Boyer disait, vous vous souvenez de l'époque Le Boyer qui a tant fait pour améliorer un peu les conditions de naissance, hein. Il faut lui rendre hommage au passage. Bon, il disait, bon, il faut rendre la naissance moins traumatique. Mais la naissance ne peut pas ne pas être traumatique. Alors, j'ai deux réflexions à ce niveau. D'abord, chez l'animal, le mammifère proche de nous, elle est également les mêmes conditions. Donc, il devrait y avoir un traumatisme de la naissance. Or, vous n'avez aucun mammifère qui va se mettre à crier. Ça n'existe pas à la naissance. Aucun mammifère, on est les seuls à crier. Et si j'ai l'occasion tout à l'heure, je dirais, nous levons les yeux, ce qu'on appelle le proto-regard. C'est très, très, très important.
En trois dimensions. Le proto-regard induit ainsi une triple naissance. Le résultat de cette expérience primordiale n'est pas seulement une rencontre parent-bébé, mais un départ à partir du même point et de la même expérience fondamentale. Parents et enfants seront en phase natale. L'unification des champs ontologiques de chacun dans la totalité apparue au monde fait que la totalité passe de ce côté-ci du monde, établissant dès lors au sein de la réalité un réel pour l'enfant. Si cela a été vécu, l'enfant aura sa base vitale dans le monde. Il y entre par la porte du réel et non directement dans la réalité. La famille, au sens fort du terme, n'est pas généalogique, mais ontologique. En tout cas, la naissance psychique de l'enfant est ainsi assurée. Les parents ouvrent le regard de l'enfant dans la mesure où ils répondent à ce qu'ils y ont vu. La totalité fait enfant. C'est donc une confusion courante qu'il convient de dénoncer. Le nouveau-né n'est pas tout de suite le bel enfant au regard brillant et relationnel. On ne le trouvera pas tout de suite, ni lui, ni ce regard. Il y a un stade préliminaire à franchir, celui où l'enfant advient en reflétant encore la totalité qui est en train de le quitter, mais qui, par contre, devient sensible aux parents. Cependant, si le lien issu du proto-regard est une condition nécessaire à la naissance psychique, celle-ci implique des remaniements profonds auxquels contribue la capacité parentale acquise.
La naissance, donc, c'est pas dû au fait que la naissance est douloureuse, difficile. D'ailleurs, il faut savoir qu'un bébé pendant l'accouchement, continue ses rythmes de veille et de sommeil et qu'il est loin d'être éveillé. De nombreux bébés, pendant le passage dans la filière vaginale, roupillent. Ils continuent, et c'est les scientifiques qui le disent, les hommes de neurophysiologistes, le bébé continue ses rythmes de veille et de sommeil. Il n'est même pas dérangé par l'accouchement.
Par la descente ?
Exactement. Et une fois qu'il est dehors, alors là, on dirait qu'il y a quelque chose qui a changé, comme s'il était entré dans une glacière, hein, ou dans une tornade. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, ce qui a changé, c'est que ce bébé n'est plus dans ce qu'était sa vie fœtale. Alors vous me direz, et vous auriez raison de me dire, vous exagérez un petit peu. Les autres fœtus du chat, du mouton, etc., eux aussi quittent la vie fœtale. Et cet argument est excellent, il faut le retenir. Mais il faut aussi y répondre. Parce que la différence, c'est que nous avons la même vie fœtale. Mettons, on va mettre que le mouton, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que in utero, les mammifères, c'est ça les mammifères. Mammifères, ça veut dire mamelle, mais profondément, ça veut dire utérus placenta, le système utérus placenta. Il y a une chose extraordinaire chez les mammifères, c'est que quand un mammifère est dans le ventre de sa mère, il jouit en permanence de toutes les conditions de la vie elle-même. Il n'y a pas de manque possible dans le cas d'une grossesse normale. Alors, je sais pas si vous, moi, j'arrive même pas à m'imaginer. Dieu sait si j'y réfléchis depuis longtemps. Mais qu'est-ce que ça doit être d'être absolument, dans le cas d'une grossesse normale, sans besoin? Ça, le mammifère, les autres mammifères le vivent aussi. Alors, où est la différence avec l'homme? Parce que c'est ça notre question. Eh bien, la différence est la suivante. Nous avons un tiers, au moins, de notre cortex cérébral qui est fait de neurones non programmés. Alors, vous allez me demander...
Des zones vierges.
Des zones vierges. Vous allez me demander où j'ai trouvé ça. Quel est l'appareil extrêmement précis, particulier, dont je dispose pour aller, comme ça, découvrir un neurone vierge et dire qu'il y a... Mais c'est pas moi qui l'ai découvert. Ça a été découvert il y a 150 ans, à l'époque de Broca, en plein 19e siècle, quand on a parlé des aires associatives, parce que Broca avait trouvé des aires qui ne répondaient pas, depuis, ça a toujours été vérifié, personne ne contredira ça, des aires qui ne répondent pas au départ, hein, et qui sont libres pour pouvoir associer en fonction des expériences, par exemple pour l'apprentissage du langage, mais que maintenant on dise que le langage est d'origine génétique. On rentre pas dans ces discussions. Donc, la question est la suivante. C'est que nous avons un tiers énorme. Il y a des auteurs qui disent plus. Moi, je prends une petite moyenne, si vous voulez. Hein. Mais c'est pas une question de quantité. Il suffit qu'il y en ait un certain nombre.
Ouais.
Alors, imaginons la scène, si vous voulez bien. Essayons de nous faire un film. On est dans le ventre de la mère. Vous avez un fœtus humain. Et vous avez à côté le ventre de la maman chatte, si vous voulez, et vous avez un fœtus chaton. Chat. Où est la différence entre les deux? Ils vivent la même chose. Leur sensorialité, capacité de se ressentir, se développe précocement chez l'humain, plus tôt. Mais tous les deux, leur capacité se développe précocement dès la vie intra-utérine. Donc, ils vivent quelque chose d'unique, la vie réussie, la vie parfaite, la vie elle-même. Et ils la sentent. Jusqu'ici, ils sont à l'égalité. Mais vient maintenant la différence. Le fœtus chat n'a pas de neurones libres pour enregistrer ça. Ni le fœtus mouton, ni les autres fœtus mammifères. On est les seuls. Et c'est là où est la rupture évolutive. On est les seuls à avoir un réservoir de neurones, ou un gros disque dur, si vous voulez, hein, absolument vierge, puisque vous avez rappelé l'adjectif tout de suite, là, absolument vierge, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Un neurone, à partir du moment où il est fonctionnel, ils le sont très tôt, hein, aux environs du deuxième mois, il commence déjà à être fonctionnel. Le deuxième mois post-conceptionnel, fin de ce deuxième mois, eh bien ces neurones, ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'il y a des influx, des échanges synaptiques, etc. Et ils vont fonctionner tout le temps, dans le cas d'une grossesse normale, dans la même atmosphère. C'est-à-dire cette atmosphère qui est celle de l'homogénéité de la vie à ce moment-là. Donc, ils vont se synapser ensemble, c'est-à-dire créer des liens,
hein, et donc une structure de par ces liens qui va être comme le décalque de la vie elle-même dans sa totalité vécue à ce moment-là. C'est-à-dire que chez nous, et c'est ça qui fait le saut évolutif entre l'animal et l'homme, c'est que nous, pendant la vie prénatale, nous prenons une leçon de vie qui nous structure au niveau cérébral et qui même, dirait Dolto, imprègne toute notre mémoire du corps.
Qui nous donne la leçon ?
Le milieu utérin, placenta compris. Cette extraordinaire bulle, si vous voulez, hein, où c'est pas tu manges à 3h, à 4h, à 6h, c'est où tu n'auras jamais faim, tu n'auras jamais soif, tu n'auras jamais ni chaud ni froid, etc. Tu vis, petit fœtus, dans une atmosphère homogène, permanente. C'est ça ce que j'appelle la leçon de vie. Voyez-vous, la vie se donne, si vous voulez, à être imprimée dans notre cortex. Et cette structure qui vient se superposer à notre programme génétique nous redétermine. Nous étions des animaux, j'allais dire, bon, on fait des images, hein, qu'on rentre dans le ventre de notre mère. Je sais bien que, bon, c'est pas nécessairement l'œuf qui vient de la fivette. Bon, au départ, c'est un œuf animal. Mais il a un supplément de cortex qui va se développer. Pour ça, il suffit d'un seul gène. C'est pour ça que ça peut très bien s'expliquer par les 0,6% de différence de gènes entre le mammifère évolué et nous, n'est-ce pas ? Il faut pas grand-chose. On imagine que tout d'un coup, dans l'évolution, il y a eu une espèce d'explosion corticale chez un grand singe. Alors il est devenu tout bête, je dirais, ce grand singe, parce que tout d'un coup, il devenait maladroit, et il avait quelque chose d'autre. Il a fallu toute l'évolution de la culture, hein, pour structurer cette donnée nouvelle, hein, pour lui donner sens, ça va être le sens de l'originaire en particulier, pour lui donner sens. Mais pendant la vie intra-utérine, cette structure nouvelle, eh bien, s'imprègne de la leçon de la vie, et donc, nous ne pouvons plus être des animaux. Pourquoi ? Parce que c'est créé en nous un nouveau besoin. On va pas naître avec le besoin de galoper, de manger, d'avoir chaud, etc. On va naître avec un nouveau besoin inédit dans l'histoire des espèces et pour lequel le milieu écologique ne peut pas répondre. C'est le besoin de totalité. La totalité, c'est notre maladie. Alors, quand je dis totalité, le mot est mauvais, mais il n'y a pas de bon mot. Hein. Ne le prenez pas, s'il vous plaît, sous un angle métaphysique, transcendantal ou autre. Prenez la totalité pour ce qu'elle est dans ce que j'essaye de dire.
C'est ni l'absolu, ni l'infini, ni l'un.
Absolument pas. Ça, ce sont des métaphores employées, à plus ou moins juste titre, dans la recherche de l'homme au cours des siècles. On respecte, n'est-ce pas ? Mais à l'heure actuelle, on peut dire que la totalité... Très simple. C'est simplement la transposition de l'homogénéité vitale qu'il y a dans le milieu utérin, dans un cortex ouvert et prédisposé à pouvoir le recevoir, ce qui fait que c'est la première fois dans l'histoire des espèces que la vie elle-même se décalque dans un cerveau. Au lieu de fabriquer seulement un organisme, végétal, animal, etc., elle fabrique son semblable.
Et c'est pas non plus totalisation.
Alors là, je crois voir où vous m'attirez, hein, c'est que cette totalité, elle est extrêmement exposée à toutes sortes de dangers. La première question, c'est comment peut-on la vivre ? On y reviendra peut-être, mais pour rester tout de suite sur votre question, il est évident que si on ne peut pas réaliser ou avoir ressentir la totalité, et qu'on est animé par ce besoin de totalité, ce qui nous caractérise.
Oui.
Une des manières de faire, ça sera de totaliser, c'est-à-dire d'assembler. Hein. On parle de la totalité est mal vue quelque part, parce que d'abord on ne sait pas la réaliser. Et il faut y revenir là-dessus. Mais par contre, ce que l'on fait dans ces cas-là, eh ben, on fait des tas, on totalise, et par la totalisation, hein, eh bien, on a l'impression d'avoir un ensemble qui correspondrait à la totalité. Mais la totalisation est extrêmement dangereuse, non aussi elle-même, puisqu'à partir du moment où on fait la totalisation, on vise à en être le maître. Faut pas qu'il y ait de différence entre ce qu'on a totalisé et soi. Mmh. Donc à ce moment-là, on devient totalitaire.
J'ai l'impression que la totalisation, c'était de l'ordre du pulsionnel. Hein? C'était un désir, bon, comme ça, d'acquisition. On fait des tas, comme vous dites. Et que votre idée de totalité, c'était un concept spirituel, spiritualiste.
Du tout. Du tout.
C'était une manière, même pas élégante, c'était une manière un peu hypocrite de remettre du spirituel dans le phénomène de la naissance.
Ah, j'aime bien quand vous dites ça comme ça, parce que ça me permet de répondre clairement. Ce n'est pas hypocrite, c'est clinique, c'est une constatation, et il s'agit pas de remettre du spirituel, il faut le reconnaître, ce spirituel. Il est là, mais ça ne correspond pas à ce qu'on entend habituellement par le spirituel. Ce qu'on appelle le spirituel, c'est la chasuble qu'on a mis à ma totalité clinique, si vous voulez. Hein? On lui a mis des chasubles, des soutanes, ce que vous voudrez. Bon. Pour moi, je ne me prends absolument pas position à ce niveau. La totalité est un phénomène clinique. Incontournable. On ne peut pas être dans le ventre de sa mère avec ce potentiel cortical libre sans que ce potentiel cortical libre s'imprègne du milieu ambiant. On dira bien qu'ensuite, après la naissance, on s'imprègne de telle culture, etc. Mmh. Mais la première culture, c'est la culture utérine.
Ça, elle est amniotique.
Comment ?
Elle est amniotique.
Elle est amniotique, elle est utérine, comme vous voudrez, tout à fait d'accord. Hein? Bien. Culture amniotique, ça me convient tout à fait. Hein? Et cette culture amniotique est telle que ce qui l'a défini au mieux, c'est la totalité dont elle est non seulement le reflet, mais dont elle est elle-même structurée. Et voilà la totalité qui débarque là, dans un sens nouveau, dont on pourrait dire que tout ce qui a été dit sur la totalité auparavant était une espèce d'intuition qui flottait, parce que les hommes sentaient bien qu'ils étaient différents quelque part, et qu'ils ont mis des mots, ils ont employé par exemple le mot de totalité, d'inde, d'absolu, etc. Mais nous, quand nous parlons de totalité, nous parlons d'un phénomène clinique. Et par exemple, nous nous posons, vous allez voir, la question suivante. Quand l'OMS définit les normes de prématurité, on peut naître à partir de 500 grammes, on peut être mis au monde à partir de 500 grammes ou de 22 semaines, pas grand chose. On a défini des normes biologiques parce qu'on sait qu'à partir de ce moment-là, on a certaines chances de sauver le fœtus. Eh bien, je pense que dans les études néonatologistes et dans la réflexion sur la possibilité que les prématurés soient maintenant ce qu'on appelle de très grands prématurés, donc chez lesquels il y a une grande mortalité, mais je me demande s'il n'y a pas aussi une mortalité de la totalité. C'est-à-dire que les privés de ce milieu dans lequel ils peuvent se structurer au niveau d'une structure qui sera humaine, hein, si ensuite elle passe par l'originaire et tout ça, les priver de cela, c'est une réflexion qu'il faudra faire, n'est-ce pas ? De même que la question actuellement est souvent évoquée de l'utérus artificiel. Est-ce que l'utérus artificiel, quand il réussira à avoir tous les tuyaux et toutes la digitalisation nécessaire pour pouvoir assurer les fournitures biologiques au compte-gouttes comme il faut, etc., est-ce que cet utérus artificiel fournira l'atmosphère même de la vie, son homogénéité vitale ? Eh bien, s'il ne la fournit pas, nous aurons une mutation d'espèce. Parce que nous, qu'est-ce que nous sommes, nous, hommes ? Nous sommes des gens qui avons été sortis d'un milieu qui nous donnait la totalité que nous sommes devenus, et nous arrivons au monde, structurés par cet être-là, mais sans avoir les moyens de l'être, et sans qu'il y ait dans le monde aucun endroit où pouvoir l'être.
La totalité, c'est un organisme psychique qui est rajouté au corps animal.
Parfaitement dit.
C'est ça ?
Ben oui. Ben oui.
Mais alors, quel est son rapport avec l'inconscient ? Parce que ces neurones qui impriment, ces neurones vierges, voilà. Cette totalité, cette nostalgie de la totalité...
Mais justement, votre question tombe à point. Une fois que vous naissez, que vous franchissez la porte, si j'ose dire, à ce moment-là, tout ça ne peut que devenir l'inconscient. Un inconscient fondamental. Ce que certains auteurs appellent l'inconscient fondamental, comme par exemple le professeur Bergeret. Cet inconscient n'est pas le même inconscient que l'inconscient pulsionnel de Freud. Mais cela devient l'inconscient. Et ce qui fait que ce que nous sommes, nous ne pouvons pas savoir. Là, nous le savons. Nous le réfléchissons. Soyons plus modestes. Par recoupement. Des recoupements dont les pièces du raisonnement sont relativement incontestables. Ça nous donne cette optique, n'est-ce pas ? Mais ce dont nous parlons est destiné à devenir totalement inconscient.
Il n'y aura jamais de levée partielle de cette totalité, cet inconscient.
Alors, malgré l'inconscient, il y a une complicité, si vous voulez, entre ce qui est devenu inconscient et ce que l'on va vivre pendant la période originaire, c'est-à-dire quand vous êtes dans la présence de votre mère, par exemple, si vous voulez, dans la présence au sens fort du terme, au sens vinicone du terme, hein, et qu'à ce moment-là, vous n'avez pas à vous demander si ça sert à manger, si ça sert à laver, à quoi ça sert, si vous êtes dans l'apparaître des choses. Or, cet apparaître des choses va prendre le relais de ce qui ne peut plus apparaître du fait de mise à l'inconscient fondamental. Et donc, vous allez continuer à pouvoir vivre ce vécu de totalité dans le pur apparaître des choses. C'est pour ça qu'il y a des poètes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont comme une double vue, qui voient autre chose, qui sentent autre chose. De toute façon, il suffit que nous devenions amoureux pour que nous soyons tous poètes. Ça veut dire quoi ? Ayant retrouvé une présence primordiale suffisante, n'est-ce pas ? On change de regard et on retrouve le regard qui nous met en contact avec le monde comme totalité et non pas comme amas d'objets conceptualisés.